afin que tu puisses être avec ma bouche, Seigneur Dieu, et mon cœur. Parce que comme Jean disait qu'il était le disciple bien-aimé de Jésus, je suis bien-aimé par Jésus et chacun d'entre nous qui écoutons, nous sommes bien-aimés de Jésus. Alors, je te prie vraiment que on réalise ton amour pour nous et ce qui fait qu'on est grand, c'est ta bonté, Seigneur. C'est pas les choses qu'on a fait pour toi, c'est pas les choses qu'on a fait avant de te connaître ou après qu'on t'ait connu, Seigneur. Ce qui nous donne de l'importance ce matin, c'est d'être aimé par Jésus. Je te prie qu'on explore ce livre-là ensemble, puis qu'on soit encouragé par ce qu'on y trouve. Au nom de Jésus. Amen. OK. Donc, yes. Donc, si vous écoutez ce message-là, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez reçu une invitation à lire l'Évangile de Jean ou encore à faire le défi 21 qui est de lire justement les 21 chapitres de Jean. Donc, ce petit livre de 21 chapitres se situe dans la deuxième partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Évangile de Jean se trouve à être le quatrième livre du Nouveau Testament et le quatrième Évangile. Et ce qui est spécial, c'est que dans l'Évangile de Jean, on voit tout de suite, et même le Nouveau Testament fait cadrer quelque chose que l'Ancien Testament ne parlait pas. L'Ancien Testament se consacrait sur la création du monde et la naissance du peuple d'Israël, qui était un peuple par lequel Dieu se révélerait. Puis dans le Nouveau Testament, c'est le Créateur qui vient visiter son peuple, vient habiter un petit peu parmi nous. Et dans le fond, on voit ses paroles, on voit ses actions, mais on voit aussi les paroles et les actions de ceux qui ont cru en lui, qui sont devenus ses disciples. Jean, c'est qui? Nulle part dans le livre, vous voyez que Jean, moi, Jean, j'ai écrit ces choses. Donc, c'est un homme qui s'appelle Jean et tout porte à croire que c'est le fils de Zébédée. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est écrit à la fin du livre qu'un des 12 qui était au repas, là, un des disciples à la veille de la crucifixion dans Jean 21-24, il était appuyé sur sur les épaules de Jésus, on pourrait dire. Il dit, c'est moi qui ai écrit ces choses, t'sais. Donc, lui, il se nomme pas par son prénom. Encore une fois, ça pourrait être une bonne indication que ce serait de Jean, le fils de Zébédée, frère de Jacques, de qui on parle, parce que il était au dernier repas, mais aussi parce qu'il y a un seul Jean dans l'évangile de Jean et c'est Jean-Baptiste. Alors, l'auteur de l'évangile de Jean fait attention lorsqu'il y a plusieurs Judas au chapitre 6, 71, 12, 4 et 14, 22. Il va dire c'était tel Judas, c'était pas ce Judas-là, c'était un autre. Et il y a plusieurs Marie aussi, on voit ça au chapitre 11, au chapitre 12, au chapitre 19. Donc, l'auteur qui, je crois, être. Le fils de Zébédée, le frère de Jacques, eh bien, serait. Puis Jean, quand les 12 sont nommés ou quand les disciples sont nommés, jamais, jamais le nom de Jean est nommé. Il va être appelé l'autre disciple dans Jean 23 ou le disciple que Jésus aime dans Jean 13, 23. Wow! Quel beau surnom, le disciple que Jésus aime. Donc, son livre, mais aussi ses autres livres, si c'est le fils de Zébédée, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 7, il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. On l'appelle aussi le disciple de l'amour de Jésus. En fait, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait de spécial lui, mais comment l'amour de Jésus pour nous, pour chacun d'entre nous est important. Et Jean veut qu'on se pose la question, qu'est-ce que Jean avait de plus que moi pour être le disciple que Jésus aimait? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être le disciple que Jésus aime, tu sais? Ou est-ce que les autres disciples étaient aimés aussi, tu sais? Puis la réponse est tellement claire dans l'évangile de Jean. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. son fils. Donc, Jean veut enlever le feu des projecteurs sur lui et il se dit, OK, dans mon histoire, il y a Jean-Baptiste et moi, je m'appelle Jean. Ça va causer... Les gens n'avaient pas de nom de famille. Hein, tu sais, Jésus, c'est pas... Son nom de famille, c'est pas Christ. Hein, c'est pas Jésus-Christ. Donc, les gens, on les nommait par leur, soit par leur ville, hein, Marie de Magdala ou encore Jean le Baptiste ou celui qui baptise. Tu sais. Alors, Jean, il y en avait deux. Alors, qu'est-ce que l'autre disciple décide de faire? Il décide de se faire appeler l'autre disciple ou et pas nommer son nom. Et quand il parle de Jésus, il ne veut, par rapport à Jésus, ce qu'il veut mettre en évidence, c'est l'amour de Jésus. Et c'est vraiment dans cet évangile-là, le désir de l'auteur, qui je crois être Jean, le fils de Zébédée, c'est de pointer vers l'amour de Jésus pour chacun de nous. L'évangile de Jean, c'est le dernier évangile et il se distingue beaucoup des autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il y a plusieurs histoires que vous retrouverez seulement dans l'évangile de Jean. Par exemple, le miracle de changer l'eau en vin ou le dialogue de la femme au puits. Et pour distinguer les autres évangiles avec Jean, un auteur qui s'appelle Richard Hayes, dans son livre « Echo of Scripture in the Gospel », il dit « Jean a condensé la tradition des miracles et de guérison de Jésus à quelques épisodes choisis auxquels il a donné le plus de développement que dans Matthieu, Marc ou Luc. » Donc, vous allez voir dans Jean une histoire, puis un long dialogue va se passer entre la personne de Jésus et cette personne-là, que ce soit avec Pilate, Pierre après la résurrection, que ce soit avec la femme au puits, où vous avez une discussion avec le paralytique à la piscine de Bethsaïda. Ce sont des histoires sur lesquelles Jean va prendre beaucoup d'espace, tandis que dans les évangiles, on va avoir des petits... Il a fait ça, il a dit cela, il y a un tel qui est arrivé. Beaucoup de choses dans le background de l'histoire que vous pouvez savoir, c'est très intéressant. Par exemple, dans Matthieu, il y a 124 citations en l'Ancien Testament, parce que Matthieu veut prouver que Jésus est le Messie attendu dans l'Ancien Testament hébreu, qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament. Donc, Jean utilise un petit nombre de références à l'Ancien Testament, mais ces petites références-là montrent beaucoup de choses sur l'identité de Jésus, et c'est ce qu'il dit. Le style narratif de Jean peut être comparé à un style artistique des portraits de Rembrandt. Il n'essaie pas de compiler un maximum d'allusions à l'Ancien Testament, il préfère mieux se fixer sur une seule vérité qui demande à être méditée. Par exemple, Jean, à un moment donné, cite le prophète Ésaïe au chapitre 6 et il dit « C'est ce qu'Ésaïe a dit lorsqu'il a vu sa gloire. » Et là, il parle de Jésus, mais dans Ésaïe, il parle de Dieu. Et, OK, donc, si le lecteur attentif va lire le prophète Ésaïe et lit le passage, c'est de Dieu dont on parle, la gloire de Dieu. Alors que dans Jean... Jean, il dit que c'est de Jésus que Ésaïe a parlé. Alors, il y a vraiment une intensité sur l'identité de la personne de Jésus. Donc, qu'est-ce que Rembrandt faisait dans ses portraits? Il faisait un fond noir, toujours. Vous taperez Rembrandt, tout simplement, et vous irez voir, je vais le mettre en plus grand, hein. Il fait un fond noir et va faire jaillir les détails d'une personne avec des détails très localisés. Dans cette image, nous voyons le portrait de Dalila et c'est le mariage de Samson. Et vous voyez que toutes les choses pâlissent à l'extérieur et le personnage intéressant est mis au centre de la scène ou les personnages intéressants. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Jean va choisir, il va enlever des détails. Lui, il enlève des détails pour garder un fond noir et un petit fond éclairé, avec un devant. Je ne suis pas un peintre, là, puis je ne suis pas une critique. Là. J'ai moi-même lu des auteurs qui n'en parlent. Donc, Jean va mettre le moins de détails possible pour que ce qui compte vraiment soit mis en lumière. Et on va regarder ensemble aujourd'hui qu'est-ce que Jean veut mettre en valeur. Il va le dire lui-même à la fin de son livre. Donc, on lit ici, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc, rappelez-vous de Rembrandt, on enlève. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, beaucoup de choses. Et pour Jean, il y a beaucoup, le monde est beaucoup trop petit pour contenir tout ce qu'on pourrait écrire à propos de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas par manque de matériel que Jean choisit de limiter le nombre d'histoires à 7 miracles, 7 discussions en privé, etc., pour faire sortir. Il veut faire sortir, donc ce n'est pas par manque de matériel, mais par désir de faire ressortir que Jésus y est le Dieu incarné, Dieu le Fils incarné, et qu'il peut nous donner une nouvelle vie, qu'il peut nous donner la vie. Là, le lecteur, quand il lit ça, il se dit, mais attends, la vie, c'est parce que je suis vivant, je respire, je veux dire, il est où le problème, là, tu sais? Mais le livre de Jean nous parle de la vie qu'on va avoir après même qu'on soit mort, dans Jean 11, 25. Donc, cette idée de vivre après la vie éternelle qui surpasse la vie biologique. Et même, elle commence à agir dans la vie biologique quand un homme, au chapitre 5, a les jambes paralysées et que Jésus vient insuffler la vie dans ses membres-là, et la vie de Dieu vient agir puis redonner la vie à ce qui était mort. Tu sais. C'est aussi ce qui va nous permettre de ressusciter du tombeau, cette vie-là. Et cette vie-là, on peut l'obtenir selon l'évangile de Jean. Ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement, mais c'est quelque chose qu'on peut obtenir. Et donc, le livre de Jean commence avec un prologue, qui est une introduction, et se termine en conclusion avec un épilogue et contient 2 grandes sections. La section en jaune, le livre des signes, chapitre 2 au chapitre 12, et le livre de la gloire, chapitre 13 au verset 20. Et contrairement, mais pour compléter, rappelez-vous que Jean a été écrit à la fin des autres évangiles, donc il a été écrit plus tard, au coin des années 100 à 105 après Jésus-Christ. Et dans le fond, si Matthieu et Luc parlent de la naissance de Jésus comme étant son origine biologique, si on peut dire, lui, dans le fond, ouais, c'est ça. Et lui, ce qu'il va faire, Jean, dans le prologue, il ne se concentrera pas sur les visions qui ont été reçues, puis que Jésus allait venir, puis se faire un enfant. Hein. Mais lui, il va faire un écho au premier livre de l'Ancien Testament hébreu, OK, de la Genèse, et il va dire que Jésus est le créateur de toute la vie sur la terre et que lui, ce créateur-là, s'est fait homme pour venir habiter parmi nous à un certain moment. Donc, vous pouvez voir déjà qu'on a un petit bébé rose à Nazareth, mais Jean, il dit, ne vous y trompez pas, le but de mon livre, c'est de vous prouver que Jésus, c'est le Dieu, le Fils incarné. Okay? Et que si vous croyez en lui, il est le Créateur, il peut vous donner la vie parce que vous croyez en lui. Donc, cette vision-là est vraiment démarquée, elle clash avec les autres évangiles. Et écoutez bien, Jean-Baptiste, probablement que vous saviez ça, mais Jean-Baptiste, son petit cousin, est né 6 mois avant lui. OK? Ça faisait de lui le plus vieux des deux. Donc, Jean-Baptiste était le plus vieux des deux. Et au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste, son petit cousin, le fils de la cousine de sa mère, Élisabeth, il dit ceci. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, okay? Celui qui va être manifesté ou qui va venir après moi, m'a précédé car il était avant moi. » Là, c'est certain qu'à la première lecture, on passe tout droit. Mais quand on l'étudie un petit peu, puis on s'arrête, on dit, comment est-ce que Jean-Baptiste, il peut dire qu'il était avant, si c'est lui qui est né en premier, eh bien, si Jésus est le Créateur et qu'il s'est incarné 6 mois après Jean-Baptiste, bien, il est venu après, mais il était avant. Ça pète un peu les neurones, mais on n'est pas habitué d'avoir une créature, si on peut dire, qui existait avant sa naissance. C'est plutôt rare. Donc, Jean-Baptiste, ici, il dit un peu le même type de phrase que Jésus va dire dans Jean 8, 58, quand les gens ils disent hey, « Nous, on est les fils d'Abraham. » Puis Jésus dit « Ah, mais avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, il est on aurait trop à dire sur ce sujet, mais il y a le fameux « Je suis » de Exode, chapitre 3, où Dieu il se révèle et il dit « Je suis celui qui suis. » Et ces « je suis-là », c'est un « je suis » qui est éternel, qui démontre son existence de toute éternité. Et il apparaît plusieurs fois dans l'Évangile de Jean, mais si vous lisez l'Évangile de Jean, vous aurez à les détecter, les trouver, ces « je suis-là ». Donc, Jean-Baptiste, c'était son cousin, mais c'était aussi son témoin. Et l'usage du mot « témoin », il y a trois mots, deux mots et un verbe, « témoin », « témoignage », « rendre témoignage ». Lorsque ces trois mots-là sont utilisés ensemble, elles font référence à quelqu'un qui vient témoigner dans une cour de justice. Jean-Baptiste et les signes et les miracles et d'autres personnes vont être appelés à témoins. Saviez-vous que dans cet évangile seulement, il y a 47 fois les trois mots ensemble? 47 fois, alors que dans tous les écrits de Jean, ailleurs, il y en a 64 références dans son évangile, si c'est lui qui est l'auteur, là, le fils de Zébédée, avec 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. 47 fois. Donc, on est vraiment là, je veux que vous imaginiez, nous sommes dans une cour de justice où des gens sont appelés à venir témoigner et ils viennent témoigner d'un fait. Et le fait, c'est quoi? Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est incarné. Il est le donneur de vie, celui qui, lorsqu'on croit en lui, peut nous donner la vie, hein? Si on croit en lui. Alors, maintenant, c'est des témoignages. Les témoins arrivent à la barre, un après l'autre. Chapitre 2, les noces de Cana, chapitre 3, 4, 5, et ça avance et plusieurs choisissent d'aller... donc, il y a une majorité de gens, hein, on voit le passage, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc, la majorité voit cette lumière-là, les éclairer, puis ils viennent pas à la lumière. Mais il y a une lumière, puis c'est une lumière qui, quand elle éclaire tous ceux qu'elle éclaire, elle éclaire tout homme, l'Évangile va dire. Il y a certaines personnes qui choisissent, comme la majorité de ceux qui m'écoutent ce matin probablement, que vous avez choisi d'aller à l'encontre de la majorité et choisir d'écouter l'Évangile, de la lire, de la considérer et peut-être même de la croire. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 1. On voit après le prologue, il y a quelques versets qui nous montrent que Pierre, André, Nathaniel, Philippe, ce sont tous des gens qui rencontrent la personne du Seigneur Jésus, examinent ce qu'il revendique être, le croient et le suivent. Et là, déjà, dès le chapitre 1, on voit un peu l'entreprise de Jean que vous croyez, tu sais. Que vous croyez puis que vous le suiviez. Alors, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 1. Et lorsque déjà le lecteur va ouvrir la Bible pour aller considérer le témoignage, c'est des témoignages qui vont se succéder l'un après l'autre. Et le lecteur va devoir être amené à considérer si Jésus pourrait être Dieu fait homme et l'accepter. À ce moment-là, le livre est très clair. Dès le chapitre 1, ça nous parle de commencer une nouvelle vie ou d'avoir la vie éternelle. Et déjà au chapitre 1, on voit qu'on peut naître. Hein? On le voit ça à tous ceux qui l'ont reçu. Hein? Donc, il y a possibilité de le recevoir, de le rejeter. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas automatique et ça n'arrive pas par accident qu'une personne reçoive la vie éternelle. C'est qu'elle a connu l'amour que Dieu a eu pour elle et elle y a cru. Et finalement, donc, on commence le livre déjà après le chapitre 1. On voit le livre des signes du chapitre 2 au chapitre 12. Et ces 10 chapitres-là vont présenter 7 miracles choisi à la méthode Rembrandt. C'est-à-dire, est-ce que ce miracle-là va refléter, on enlève tout, là, puis on en choisit un, on dit, est-ce que si je mets la lumière sur ce miracle-là, ça va refléter que Jésus est le Fils de Dieu et le donneur de vie, que si on croit en lui, on peut avoir la vie éternelle. Il y aura de l'eau changée en vin, la guérison d'un officier romain, la guérison d'un paralytique, une foule de 5000 personnes qui sont nourries avec quelques petits pains et poissons, une marche sur les eaux, une guérison d'un aveugle né. Puis finalement, il y aura la résurrection de Lazare, un miracle qui va susciter l'étonnement, mais aussi qui va déclencher sa mise à mort parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si Dieu nous apparaîtrait en face, on ne le croirait pas. Puis tous les miracles que Jésus a faits, le leadership juif ne se tournera pas vers Jésus. Et puisque le leadership ne se tournera pas vers Jésus, eh bien, les Israélites ont une pensée de troupeau. Si le leader ne suit pas, je ne suivrai pas non plus. Et il y avait toutes les menaces d'être excommunié du temple, etc. Donc, il y avait une crainte parmi le peuple de s'afficher pour Jésus. Et là, on voit une transition à la fin du livre des signes, c'est-à-dire les chapitres 2 au chapitre 12. On voit une transition où, dans l'Évangile, les siens ne sont plus le peuple juif. Donc, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et là, il y a un transfert qui se fait. En tout cas, pour un temps. Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël ne restera pas un peuple à qui Dieu a fait des grandes promesses et qui va restaurer les promesses faites à Abraham, etc. Ce n'est pas ça ici qu'on veut dire. On veut dire qu'il y a un autre focus qui est fait par rapport aux siens. Et on le voit dans le chapitre 13, verset 1. C'est les siens maintenant, ce sont ceux qui croient en lui, ce sont ses disciples. Est-ce que ça se peut que vous voyez mes versets à l'envers? Vous voyez mes versets à l'endroit?
Oui. Oui, tout
à fait. Merci de me répondre parce que moi, sur mon, je veux mon zoom en arrière-plan, puis les versets paraissent à l'envers. Fait que s'ils sont à l'endroit, vous allez croire à l'endroit. C'est mieux que de croire à l'envers. OK. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Voyez-vous? Au chapitre 1, il disait, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais il y a les siens, c'est-à-dire ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui ont accepté son amour, qui ont cru. Et dans ce chapitre-là, il commence cette section-là en mettant un comble à son amour pour eux. Et là, on va s'en suivre donc le livre de la gloire, du chapitre 13 au chapitre 20. Et c'est une section qui est intime. C'est en fait le dernier repas avec Jésus. Ça se passe dans l'après-midi du samedi, en tout cas du sabbat. Et ça, oubliez le jour, ça se passe à la veille de la Pâque, ça je vais le dire comme ça, avant le coucher du soleil, et puis ils soupent ensemble, et là, on va appeler ce livre-là le livre de la gloire pour plusieurs raisons, peut-être la raison la plus évidente, c'est qu'elle culmine par la résurrection de Jésus, alors que les ténèbres ont essayé de se l'accaparer, et ont essayé de l'éliminer, Jésus devient le grand vainqueur au travers de ça. Okay? Donc, le livre de la gloire dure 7 chapitres de temps et c'est l'intimité de Jésus avec ses disciples, les siens. Pourquoi c'est aussi le chapitre de la gloire? C'est parce que le roi de gloire prend une serviette et lave les pieds de ses disciples, quelque chose qui était fait par le plus insignifiant des esclaves. Et Jésus va se montrer que quand on veut montrer la gloire de Dieu, on montre la bonté, on montre le service, on estime les autres comme plus importants que soi-même. Et quand que Moïse avait demandé, « Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire », Dieu avait fait passer devant lui toute sa bonté. Hein? Et donc, on voit la bonté du Seigneur de plusieurs manières, la gloire du Seigneur de plusieurs manières. Donc, oui, il leur lave les pieds, il prend la position la plus basse, il prie pour eux que Dieu leur fasse connaître sa gloire. Il va aussi prier non seulement pour eux, mais pour vous aussi qui avez cru à cause de leur témoignage. Encore une fois, ce témoignage-là, qu'on y a cru, nous autres aussi. Puis il prie. Puis certains l'appellent une prière sacerdotale ou la prière du grand prêtre. C'est comme, regarde, c'est celui qui est, c'est le fils de Dieu, tu sais. Fait que c'est la prière du grand prêtre. Fait qu'il y a des bonnes chances que ces prières soient répondues. Alors, on voit que Jésus aussi, dans ces passages-là, les prépare pour la tragédie qui va arriver demain, dans les prochaines heures. Il leur promet aussi que le Saint-Esprit va venir, il prend soin d'eux et finalement, il va mourir pour eux. Dans certains passages de ce discours-là, il leur dit que l'amour qu'il a pour eux, c'est de livrer sa vie pour ses amis. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit l'épilogue, le chapitre 21. Et on voit Jésus rencontrer, il ressuscite et il apparaît à 7 de ses disciples. Et ils ont eu une nuit de pêche qui est infructueuse. Et il va leur donner une instruction de jeter leur filet de l'autre côté et il va avoir un repas préparé pour eux. Déjà, Jésus leur a fait à manger. Et il va prendre Pierre à l'écart, va lui donner des instructions aussi sur le ministère puis sur l'importance de nourrir l'Église du Seigneur. Et donc, c'était pas mal le survol de ce que je dois m'attendre à lire là, dans l'Évangile de Jean. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi moi, là, je lirais l'Évangile de Jean pour la première fois? Et peut-être que vous êtes croyant depuis plusieurs années, vous l'avez lu maintes et maintes fois. Pourquoi la relire encore et l'étudier? Donc, on va répondre à cette question-là. Ceux qui nous suivent les mercredis, on étudie les grands thèmes de l'Évangile de Jean. On a fait ça déjà peut-être 7 ou 8 fois ensemble. On étudie des thèmes qui sont particuliers dans l'Évangile de Jean puis qui ne sont pas découverts à la première, la deuxième ou la cinquième lecture. C'est souvent une étude plus approfondie. Et M. Richard Bachman a fait un travail colossal dans ce livre-là que j'aime beaucoup. Et je vais vous lire ensemble ce qu'il dit. On va l'avoir à l'écran pour comprendre un peu son appréciation. L'Évangile de Jean est un texte qui crée continuellement l'impression qu'il y a plus qui frappe les yeux. L'auteur déploie la puissance des métaphores et des symboles d'une manière puissante pour que les histoires d'enseignement de Jésus illuminent continuellement et mutuellement d'autres textes du livre. Chaque histoire a été coordonnée avec les autres parties du narratif pour que l'histoire revête une signification plus grande que celle en surface. Jean est le maître de l'ironie au point que les personnages disent plus que ce qu'ils veulent dire et même parfois le contraire de ce qu'ils veulent dire. Je vais regarder avec vous cela avec Caïphe tout à l'heure. Jésus est continuellement mépris sur le véritable sens de ce qu'il dit. Donc, par exemple, lorsqu'il dit « mangez ma chair, buvez mon sang », si tu arrêtes à la première, au premier sens, ça ne fait pas de sens. Jésus voudrait qu'on soit des cannibales. Donc, il est mal compris et des milliers, voire des dizaines de milliers, cessent de suivre Jésus au chapitre 6 de Jean à cause de ça. L'Évangile est traversé par des interconnexions à la Bible hébreu, l'Ancien Testament, qui élargissent le sens du texte lorsque réfléchi et médité. Nous en avons parlé avec Ésaïe, chapitre 6, tout à l'heure. Le livre a été écrit non seulement pour faire du sens à celui qui lit pour la première fois, mais il a aussi été conçu pour être étudié, pour en tirer une abondance de sens aux plus attentifs des étudiants. Les énigmes servent à stimuler l'intelligence et à attirer le lecteur. Je m'excuse, je m'en vais à la prochaine acétate. Pour attirer le lecteur. J'ai pas affiché les CAIF, mais je vais retourner avec vous, prendre quelques instants. C'est dans Jean chapitre 11. Et là, Lazare vient d'être ressuscité. On cherche une manière de le faire mourir. Et on lit au verset 47. Alors, les chefs des prêtres, les pharisiens, rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Pourquoi? Parce que Rome n'acceptait pas un autre rival que César. Il n'acceptait pas un rival dans leur royaume, fait qu'il aimait mieux détruire la place que d'avoir un rival si les gens acceptaient un autre roi. Fait que là, le souverain sacrificateur, puis tout le monde se gratte la tête, disait hey, « qu'est-ce qui va arriver? » Écoutez bien ce que Caïphe va dire. L'un d'eux, Caïphe, au verset 49 de Jean 11, l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » C'est quoi? Je vais enlever le petit encore ici. C'est quoi ici que Caïphe est en train de dire? Caïphe est en train de dire, « Gars, tuez-moi ça, c'est un faux prophète-là. Tuez-moi ça, comme ça les Romains ne viendront pas nous détruire. » Écoutez bien ce que Jean fait, et Jean le fait à 4 ou 5 reprises dans l'Évangile. Il dit, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Le maître de l'ironie. Jean, le maître de l'ironie, dit, garde, non seulement il n'a pas dit ça de lui-même, mais le Saint-Esprit il a prophétisé au travers de lui, mais Caïphe, quand il l'a dit, il y a une pensée, puis c'était l'idée, c'était de protéger les Juifs d'une invasion romaine. Tu sais. Mais Jean, lui, il voit tellement la grande main de son Dieu, puis il dit, non, écoute, il a prophétisé que Jésus, là, dans le fond, si lui meurt, moi, puis tous les autres, on ne sera pas obligé de mourir, d'être puni au jugement dernier. Et Dieu va rassembler en un seul corps, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs. Il va les rassembler pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. C'est profond, là. Ça demande une réflexion. Tu te dis, boy, Jean a vu la grande main de son Dieu dans cet événement-là. Il ne peut pas faire autrement que dire que Caïphe a prophétisé, ce qui est un énoncé qui est tellement ironique. Maintenant, et pour terminer, je vais vous montrer aussi comment on peut apprécier la poésie de Jean. Et on va parler d'un parallélisme concentrique. Mais de quoi tu nous parles, Jean-Sébastien? Regardez la forme en flèche de cette structure-là. Vous voyez que A en haut va avec A en bas, B en haut va avec B en bas, et ainsi de suite jusqu'à H. Une forme concentrique, c'est un parallélisme concentrique dans la poésie hébraïque. Ça veut juste dire qu'il y a des équivalences ou des échos dans une partie première et dans une partie seconde. Il y a des échos et dans le centre, il y a une vérité qui n'est pas, qui ne trouve pas son écho, qui ne trouve pas son semblable. Dans le cas actuel, le chapitre 1, verset 1 à verset 18, qui est le prologue, ce que j'ai consacré mes dernières semaines à étudier. Ça, c'est quelque chose que je trouve dans les auteurs. Là, je n'ai pas composé ni trouvé cela. J'ai juste été émerveillé par ça. La manière de le lire, ce serait d'aller de A jusqu'à H, puis ensuite de G jusqu'à A. Mais si vous voulez l'étudier, vous pouvez aller lire A et A, B et B. Et je fais les trois premiers avec vous juste pour le plaisir, puis vous pouvez regarder la vidéo après, puis prendre des screenshots là, ou revenir sur la vidéo après, faire pause, puis aller voir dans les passages. Donc, qu'est-ce qu'on voit au chapitre 1, versets 1 à 2? On voit au commencement, Dieu, le Père et son Fils sont intimement liés l'un à l'autre. Ils sont en communion ensemble. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 18? Que Jésus est dans le sein du Père, qui est une place où on mettait un poupon, là, que très près de son Père, donc très intime avec son Père. Ensuite, partie B, le monde a été créé par lui au verset 3. Je ne l'ai pas mis dans l'image, mais le monde a été créé par lui. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 17? La grâce et la vérité sont venues par lui. Donc, dans l'Ancien Testament met beaucoup d'emphase sur la création du monde par Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, on met beaucoup d'emphase sur le fait que Jésus amène avec lui la vérité et la grâce. Donc, le monde vient à l'existence par lui, mais il y a aussi la grâce et la vérité qui vient à l'existence par lui. Ensuite de ça, puis je finis avec cela, en lui est la source de la vie. Hein? En C, en lui est la source de la vie. Et dans l'Évangile de Jean, la vie est souvent considérée comme une source d'eau vive ou comme de l'eau qui jaillit. Donc, en lui est la source de la vie. Et qu'est-ce qu'on voit? Le C, au verset 16, nous avons reçu de sa plénitude. Donc, non seulement il est la source, mais il est possible de recevoir cette source-là. Et ça culmine vers H. Et H dit quoi? La vérité centrale du prologue, c'est « Hey, Jésus, il est venu te donner le pouvoir de devenir son enfant. Hein? » Il est venu te donner la capacité parce que lui, il veut que tu deviennes un enfant de Dieu. Maintenant, c'est à toi de le recevoir. Donc, je le fais par exprès pour ne pas tout aller dans les détails de ça parce que nous aurons des vidéos sur l'Évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. On va faire tout l'Évangile de Jean comme cela. Et pour le moment, je voulais juste titiller le goût, titiller vos papilles gustatives pour que vous ayez le goût d'explorer ce chef-d'œuvre de poésie. Donc, sur ce, c'était le survol de l'Évangile de Jean. Et j'aimerais ça prier pour chacun d'entre nous, puis terminer ce rassemblement, puis continuer ensuite avec l'Église. Seigneur, dans ce passage, Seigneur, c'est de l'Évangile de Jean, c'est ce petit livre de 21 chapitres, Seigneur, on découvre, Seigneur Dieu, que tu aimes les hommes, que tu es venu sur la terre, toi le Créateur, tu t'es fait chair, tu es venu habiter un bout de temps parmi nous, puis l'Évangile de Jean nous aide à comprendre que si tu es venu, c'était aussi pour, malheureusement, mourir et donner ta vie pour ceux que tu aimes. Même à la première lecture, Seigneur, on lit ça et on s'aperçoit que la mort de Jésus, ta mort, Seigneur, ce n'est pas un accident, Seigneur. Déjà au premier chapitre, tu dis que tu es l'agneau de Dieu qui vient dans le monde. Au chapitre 3, tu dis qu'il faut que tu sois élevé sur une croix pour que les gens croient en toi. On voit dans tes discours avec les disciples que tu leur dis que tu vas falloir que tu meurs pour eux. On s'aperçoit, Seigneur Dieu, que le roi de gloire, il s'est humilié. Il a servi ses disciples, mais en plus de ça, il est mort pour eux. Pour porter la punition que méritent nos péchés. Caïphe a dit, il vaudrait mieux qu'il meure pour qu'on ait la paix. Mais nous autres, on dit, il valait mieux que tu meures pour qu'on ait la paix. C'est tellement pas la même paix. C'est la paix avec toi, Seigneur. C'est la paix avec notre Créateur. C'est la réconciliation à cause de nos péchés. On mérite le châtiment, mais le châtiment qu'on méritait est tombé sur toi. Puis si on t'accepte, si on te reçoit, eh bien, on est passé de la mort à la vie, qu'on ne viendra jamais en jugement, le chapitre 5 dit. Et ça, c'est une super nouvelle. Je prie pour ceux qui m'écoutent ce matin, ceux qui sont là puis qui écoutent l'Évangile de Jean, qui n'auraient pas fait cette prière-là, cette décision d'accepter Jésus, de répéter avec moi cette prière puis d'être sincère avec Dieu. En disant, Seigneur Jésus, répétez-le dans votre salon, là où vous êtes. Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'aimes. Au point de venir vivre parmi nous, vivre une vie parfaite et mourir pour nous, pour moi. Tu as été puni sur la croix pour mes péchés. Et je le crois, je l'accepte. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts puis que tu vas m'accueillir à cause que tu m'as pardonné. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Aide-moi à découvrir la vie nouvelle que tu réserves, la vie éternelle qui est discutée dans l'Évangile de Jean. Une nouvelle vie. Amen. Vous pouvez arrêter l'enregistrement. Puis on va continuer avec